Il y a déjà quelques décennies, Virginia Woolf jugeait que le terme féminisme était tellement corrompu qu'il aurait mieux valu l'écrire sur une feuille de papier ministre, puis approcher une allumette et le brûler. Aujourd'hui, le constat semble encore plus d'actualité, tant on peut se revendiquer du féminisme pour tout et son contraire, prôner la GPA ou la refuser, défendre le port du voile ou souhaiter sa disparition, à vouloir abolir la prostitution ou défendre les travailleurs du sexe. Donc le féminisme, tout en ayant le vent en poupe, semble miné par des divergences et des anathèmes en son sein, parmi lesquels se situerait la divergence entre un féminisme décolonial et un féminisme universel. Pour discuter ce qui relève dans ces divergences de caricatures, de divergences stratégiques ou alors de gouffres politiques, je suis en compagnie de deux invités. Martine Storti, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier « Pour un féminisme universel », c'est à la collection « La République des idées du Seuil ». Et en face de vous, Françoise Verrès, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié l'an dernier « Un féminisme décolonial » et vous venez toujours aux éditions de La Fabrique de faire paraître une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection. Peut-être une première question, parce que dans ces deux livres, dans ces trois livres, vous retracez à la fois votre parcours, vos itinéraires et vos positions. Vous avez quand même toutes les deux été membres du MLF, à des titres divers. Et aujourd'hui, vous êtes quand même très loin politiquement et intellectuellement. Comment vous l'expliquez ?
Je l'explique pas. Je ne peux que le constater. Mais je crois que ça caractérise pas que Françoise Vergès et moi. C'est vrai que Le courant MLF, par rapport à un certain nombre de questions, disons, qui se posent, qui sont toujours posées, mais qui ont pris de l'actualité depuis une dizaine d'années, les femmes de cette génération, qui en effet étaient militantes du MLF, ce qui ne veut pas dire que nous étions d'accord sur tout dans ces années 70. Il y avait beaucoup de désaccords et de divergences. Mais sur un certain nombre de sujets, en effet, l'évolution a été différente. C'est-à-dire que de la même génération, par rapport. Alors pourquoi ? Bon, moi j'ai mon analyse. Je pense que certains critères, certains enjeux ont été considérés comme prioritaires par rapport à des enjeux, disons, d'émancipation des femmes, ou bien regarder la question de l'émancipation des femmes à travers d'autres enjeux. Par exemple, il y a celles qui ont pensé que la lutte antiraciste était tout à fait importante, voire même prioritaire. D'autres qui considèrent, à tort ou à raison, plutôt à mon avis à tort, que c'est la lutte non seulement contre l'islamisme, mais même contre la religion musulmane en tant que telle qui est prioritaire. D'autres, c'est la lutte anticapitaliste. Je pense qu'il y a des questions, si vous voulez, qui se sont greffées ou articulées à la question de l'émancipation des femmes. Ce qui fait que, personnellement, je regarde pas les choses d'un point de vue générationnel, parce qu'on dit beaucoup c'est la fracture générationnelle, c'est une autre génération qui a d'autres idées, etc. Bon, bien sûr qu'il y a une différence générationnelle. Celles qui ont 20 ou 30 ans aujourd'hui, on avait 20 ou 30 ans les années 70, donc on les a plus. Mais je pense qu'il n'y a pas d'homogénéité générationnelle, puisque à l'intérieur de notre génération, il y a des divergences, et à l'intérieur des plus jeunes aussi, d'ailleurs, il y a des divergences.
Pour moi, je pense qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes, ni qu'on ait les mêmes références, que ce soit historique ou théorique, mais c'était dès le départ. Je pense que ça vient de plus loin qu'effectivement, simplement, je ne sais pas, je conteste aussi cette notion de vague, il y aurait des vagues. Et pour moi, je pense qu'il y a une chose vraiment très importante, c'est que la décolonisation, il y a eu souvent une confusion entre décolonisation et lutte pour les indépendances, qui sont pour moi une étape, et que les questions de décolonisation se sont poursuivies, et se poursuivent aujourd'hui, et qu'elles sont extrêmement importantes. Donc on a pu soutenir les luttes de libération nationale pour les indépendances, mais les choses...
Comme l'ont fait la plupart des activistes du MLF.
Oui, mais ça ne pouvait pas s'arrêter là. Et c'est cette, je pense que cette lutte est devenue beaucoup plus importante aujourd'hui, pour des tas de raisons. On l'a vu déjà ressurgir, même en Afrique du Sud, avec les étudiants demandant une décolonisation des enseignements des institutions. On le voit aux États-Unis ou ailleurs, on l'a vu en France, en Espagne, en Italie, mais que ces questions, elles étaient déjà là, en fait. Elles ont toujours été là, dans les programmes de libération nationale, elles étaient là, mais elles n'ont pas été accomplies. Elles ont été étouffées, elles ont été mises de côté, marginalisées, mais elles n'ont jamais disparu complètement, et là, elles reviennent. Donc je ne pense pas que c'est simplement, si vous voulez, que... En fait, ces choses-là étaient déjà là. Ces discussions étaient déjà là, Elles sont là, il y a des féministes dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global et ce qu'on appelle le tiers-monde qui posaient déjà des questions, ou même à l'intérieur, en France aussi, il y avait ces questions qui se soulevaient. Donc je pense, pour moi, c'est surtout comme il y a eu des changements quand même politiques, économiques depuis, ces questions aussi sont devenues plus importantes. Mais par exemple, si on voit les questions antiracistes, elles existaient déjà, et les luttes antiracistes ne datent pas évidemment d'aujourd'hui. Donc il y avait déjà un fond, et on a déjà des textes à l'époque qui sont extrêmement, en fait, très radicaux sur ces questions.
Alors pourquoi, à partir de là, vous jugez dans votre livre, Martine Storti, que le féminisme décolonial s'apparente en fait à un anti-féminisme, voire un anté-féminisme ?
Non, alors, précisons, quand je parle d'anti ou d'anté-féministe, je ne vise pas forcément le féminisme décolonial. Par exemple, sur l'anté-féminisme, je parle du féminisme intégral, parce que vous avez souligné dans votre introduction, en effet, que le mot féministe pouvait recouvrir des positions complètement contradictoires, opposées, même contradictoires. C'est vrai que, personnellement, je trouve absolument étonnant que se qualifient de féministes, c'est leur droit, hein, évidemment. Mais se qualifier de féminisme, le retour à le refus de l'avortement ou la critique de l'avortement et le retour à une vision de la femme correspondant à Hippocrate, tota mulier in utero, c'est-à-dire que la femme considérée uniquement dans sa fonction maternelle et dans son utérus, je ne peux pas appeler ça du féminisme, si vous voulez. Donc là, je dis anté-féministe parce que on revient en effet à un discours, pour le féminisme intégral par exemple, qui est de droite, pour ne pas dire d'extrême droite, un discours qui était extrêmement tenu, par exemple, à la fin du XIXe siècle. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant de voir en effet que cette conception-là non pas du féminisme, mais de la place des femmes, se développe énormément à la fin du XIXe, à un moment d'ailleurs où il y a une montée de l'antisémitisme extrêmement, extrêmement importante.
Hein. – Entendez, mais là c'est comme Eugénie Bastier qui est une des représentantes de féminisme intégral, et pas là pour vous répondre, je vous posais la question sur le féminisme décolonial. –
Sur le féminisme décolonial, je dois dire deux choses. Que la question en effet du colonialisme, Françoise Vergès a raison, ne soit pas arrêtée aux accords d'Évian en 1962, c'est tout à fait évident. Ce que je conteste un petit peu, c'est de dire que les féministes des années 70, toutes les féministes des années 70, on pensait que, comme si nous pensions que la question du post-colonialisme ou de la décolonisation ne se posait plus à partir du moment où on avait fait la paix en Algérie et que les accords d'Évian avaient été signés. C'est ça que je mets en question. Si vous voulez. Je ne dis pas du tout que c'est de l'antiféminisme ou même pas du féminisme du tout. C'est pas ça. Je dis qu'à un moment, on ne peut pas globaliser les choses et on ne peut pas dire que toutes les féministes passaient à côté de ça. De même sur la question du racisme, je suis tout à fait d'accord pour dire que la question du racisme, de l'antiracisme et de la lutte contre le racisme se posait dans les années 70 parce que c'est précisément parce que nous étions conscientes de cette question et que la lutte, par exemple, contre le viol, ou la lutte pour faire que le viol soit reconnu de facto comme un crime, et pas seulement dans la loi, c'est parce qu'on était très sensible à la question du racisme que cette lutte a été une souffrance. Elle était extrêmement douloureuse, extrêmement compliquée, extrêmement complexe. Voilà, c'est ça que j'essaie de
dire. Vous dites quand même un peu plus que ça, parce que vous avez l'air de dire qu'au fond, quand on accole un adjectif à féminisme, hein, que ce soit intégral, que ce soit anticapitaliste ou que ce soit décolonial, on perd
ou plein d'autres adjectifs.
Ou plein d'autres adjectifs, on perd un peu du féminisme, c'est-à-dire
qu'on
secondarise.
Non, je pense pas que l'adjectif en soi soit un problème, parce qu'il y a toujours eu, le féminisme a toujours été adjectivé. Dans les années 70, on parlait de féministes. Il y avait universalistes, différentialistes, les féministes révolutionnaires, les féministes qui articulaient plutôt avec la lutte de classe, etc. Donc le féminisme adjectivé a toujours existé. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met sous l'adjectif, si vous voulez. Et en effet, la question que je pose, c'est, par exemple, prenons la question de l'intersectionnalité, sauf si c'est la question suivante.
C'est la question suivante.
Alors je vais le développer après. Ce que j'essaie de regarder, c'est est-ce qu'il y a vraiment un croisement ou est-ce qu'on arrive à une hiérarchie des luttes? C'est ça un peu la question que je regarde.
Donc double question, est-ce que vous pouvez nous redéfinir le féminisme décolonial par rapport à ça? Et est-ce que dans votre livre, qui est une charge hein, quand même contre ce que vous appelez le féminisme universaliste ou civilisationnel, est-ce que vous feriez la différence que fait Martine Storti dans son livre entre féminisme universaliste et féminisme universel?
Alors déjà, sur la question de la décolonisation, il ne s'agit pas d'être seulement antiraciste, si vous voulez. Moi, je suis dans la lignée un peu de ce qu'on appelle le courant décolonial, c'est-à-dire de quelle manière les siècles d'esclavagisme, de colonialisme et d'impérialisme, ou postcolonialisme, comme on veut l'appeler, ont traversé les idéologies même d'émancipation. Ce qu'Aimé Césaire appelle l'effet retour dans le discours sur le colonialisme, et qui est quand même quelque chose qui a été très étudié, que ce soit dans la littérature, comment ça revient, comment ça s'insinue, et comment même donc des idéologies de progrès sont malgré elles, ou peut-être traversées par cela. Donc ces questions sont posées sur toutes les idéologies qui sont nées en Europe, hein, toute la manière dont la philosophie, la science, la sociologie, l'ethnologie, enfin tout. Donc le féminisme, pour moi, n'échappe pas à cette question retour. Et donc pour moi, la question, c'est pas que les féministes n'ont pas soutenu ou n'auraient pas été, c'est comment se poser la question. Et moi, je me pose la question moi-même, pour moi-même. Moi, je viens de l'île de la Réunion, où je n'ai vu que l'État colonial, où je n'ai pas vu du tout où le féminisme d'État qui s'est imposé est un féminisme absolument brutal, absolument raciste, et qui n'a rien à voir pour moi, auquel je m'oppose, et qui se posait comme féminisme universel. Donc pour moi, féminisme décolonial, c'est vraiment de continuer à voir comment les féminismes ont été traversés par cela, ce que j'appelle féminisme civilisationnel ou féminisme universaliste, c'est-à-dire qui se pose comme donc donneur de leçons aux femmes ailleurs, et qui ne s'est pas posé cette question de retour. C'est très peu posé cette question. Moi, je ne connais pas de livre, même par exemple quand on voit l'histoire du féminisme qui est publiée dans les années 80, il y a toujours des chapitres sur les femmes en Algérie, les femmes algériennes, ou les femmes dans les colonies, ou les femmes blanches dans les colonies. Mais ça ne pose pas la question, si vous voulez, de qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire tout ce travail qui s'est fait, de la construction, notamment sous l'esclavagisme, d'une femme qui devient blanche, qui est faite blanche, qui va être qu'on va découvrir, qu'on va fabriquer comme blanche. Et bien ça existe. Quel effet ça a eu en Europe? On ne peut pas se dire qu'il n'y en a pas eu d'effet. Moi, c'est la question que je pose. Et donc la question pour moi, ce n'est pas que les féministes n'auraient pas tenu compte de ça, c'est la manière dont on continue à mettre à distance la manière dont l'esclavagisme, les siècles, je veux dire, tout, l'art, la littérature, la philosophie, tout ont été touchés, sauf le féminisme. Alors, je voudrais qu'on m'explique comment le féminisme a été protégé de cela. Et les féminismes, effectivement, il y a des féminismes. Mais même le féminisme universel. Donc, moi, c'est la question que je pose et j'essaye de voir en quoi. Et je dis un féminisme décolonial, justement, parce que je ne dis pas le. Et je pars, évidemment, de toutes ces luttes qui sont dans le Sud aujourd'hui, dans le Sud global, mais le Sud qui... ou des Suds qui peuvent exister dans le Nord aussi. Pour moi, ce n'est pas du tout une division géographique. Et je pense, et pour moi, effectivement, la question du capitalisme est absolument essentielle, c'est-à-dire la manière dont le néolibéralisme continue à distribuer à travers les femmes des situations où des femmes sont plus vulnérabilisées que d'autres, parce qu'elles sont racisées. Et ça, il n'y a qu'à voir, je ne sais pas, moi, par exemple, même si on regarde que la France, n'allons pas chercher dans des pays ailleurs, en France, aujourd'hui, toujours, vous avez d'énormes différences entre les femmes françaises et les femmes dans les départements qu'on appelle d'outre-mer. Mais d'énormes différences. Je ne sais pas, moi, le taux de mortalité maternelle est 3 fois plus en Martinique qu'en France. Je ne sais pas si ce sont des chiffres, ce sont des faits. Je pars aussi de ces faits, de cette poursuite à l'intérieur même de la République française, de différences, de différenciations, de vulnérabilités qui sont différenciées à des causes de mort, à des causes de maladie, et qui ne sont donc, il n'y a pas du tout d'accès universel à tout cela.
Qu'il y ait un traitement différent, que c'est plus compliqué, plus difficile d'être une femme noire qu'être une femme blanche dans un pays comme la France, bien sûr, quoi qu'il y a quelques femmes blanches qui sont dans une situation sociale plus difficile que quelques femmes noires, mais enfin bon, en gros, je suis d'accord avec ça. Mais... quand Françoise dit donner des leçons aux autres, non, par rapport à ce que j'ai écrit et même d'une certaine façon ce que j'ai fait dans ma vie maintenant que je suis une vieille bonne femme, je ne suis pas dans la position, c'est pas une position de donneur de leçons. On ne peut pas globaliser, on ne peut pas considérer que les féministes blanches, parce qu'elles sont blanches, il n'y a aucune différence entre celles qui vont défendre une certaine cause dans Valeurs Actuelles, par exemple, et celles qui ne le font pas. Je veux dire, l'instrumentalisation, qu'il y ait une instrumentalisation du féminisme par des courants de droite et d'extrême droite qui ont toujours été contre, d'ailleurs, l'émancipation des femmes et contre la libéralisation de l'avortement, etc., etc., et qui aujourd'hui, dans une perspective en effet raciste et même islamophobe, instrumentalise le féminisme, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais on ne peut pas dire que toutes les féministes blanches fonctionnent sur ce modèle-là.
Et c'est
pas un problème de donner des leçons, c'est... Moi, je constate, féminisme, je crois que j'ai une phrase dans le livre, je dis, le féminisme universel, il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. C'est-à-dire que, dans plein de pays, des femmes se battent. Quand des femmes se battent en Afghanistan, en Arabie Saoudite, en France, en Angleterre, dans les territoires d'outre-mer, dans toute série de pays d'Africains, etc., c'est leur combat. C'est dans leur différence et dans une manière particulière de s'y prendre parce que, on ne parle pas des mêmes situations, on n'est pas la même culture, pas la même religion, pas le même passé, pas la même histoire, etc. Mais ce n'est pas les occidentales ou des occidentales qui viennent donner des leçons à d'autres. C'est leur propre combat. Moi, quand je suis allée en Afghanistan et que des femmes se battaient pour continuer l'éducation des petites filles, même clandestinement et au risque de leur vie, ce n'était pas donner des leçons, c'était leur combat. Et j'étais solidaire, évidemment, de ce combat-là. Donc... il n'y a pas non plus il y a un féminisme civilisationnel, je le reconnais bien volontiers. Il y a une instrumentalisation du féminisme, mais j'essaie de pas mettre tout le monde dans le même panier, quoi. C'est un peu ça mon truc, si vous voulez. Je crois qu'il faut faire des distinctions. Et il y a quelque chose que je supporte de moins en moins, et même si c'est un combat perdu d'avance, c'est les globalisations, quoi. Je veux dire, on peut pas dire les, il faut dire des.
Mais alors prenons un exemple concret. Il y a eu ce mouvement MeToo. Vous le regardez comment avec votre angle d'analyse, Françoise Gevergès?
Oui, alors juste avant, je voudrais préciser que sur la question blanche, pour moi et pour d'autres, la race, ce n'est pas une couleur de peau, c'est une structure de domination. Et que la race a traversé la manière dont la classe ouvrière s'est constituée. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, il n'y a pas de séparation. Et ça ne veut pas dire que tous les blancs sont comme si tous les noirs sont bien. Puis, bon, donc, on ne va pas... Et que, aussi, je voudrais insister sur la manière dont le néolibéralisme manipule les questions raciales et les questions féministes. Sur la question de MeToo, moi, je rappelle très souvent que c'est commencé quand même par Tarana Burke, une femme africaine-américaine, dans les ghettos, pour s'occuper justement des jeunes filles qui n'ont absolument aucun recours. Je pense que ça a soulevé des choses absolument incroyables et qu'on voit et dans le monde du travail, mais pas seulement donc dans le monde du cinéma ou de la culture, mais dans le monde du travail, que ce sont des lieux de harcèlement sexuel intense, mais que ce harcèlement est souvent aussi lié avec aussi une précarisation de plus en plus grande dans des métiers dans lesquels les femmes sont. Et à l'intérieur de cette précarisation qui s'accentue, on l'a encore vu avec l'épidémie, dans cette précarisation et cette vulnérabilisation, les femmes qu'on appelle racisées et qui peuvent être, donc, sont quand même parmi les plus touchées. C'est tout, c'est un fait. Et ça s'est accentué, ça s'est beaucoup accentué. Il y a un recul aussi. Et moi, quand je parle de la France, je parle aussi de la France, évidemment, mais de ce qu'on appelle ces territoires d'outre-mer, qui sont pour moi toujours extrêmement importants, parce qu'ils marquent aujourd'hui, en 2020, une perpétuation d'une France quand même coloniale, je ne sais pas comment l'appeler autrement, qui quand même, et ça s'appelle la République. Et que donc, il n'est pas besoin d'aller chercher au Pérou, en Afghanistan ou ailleurs, ce genre de situation. Elles sont là, à la fois dans les quartiers populaires en France, et puis à Mayotte, en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, dans les îles du Pacifique, en Guyane, enfin, ce sont des choses... Il n'y a pas besoin d'aller chercher les États-Unis pour voir les camps de détention et la manière dont on traite. On n'a qu'à aller à Mayotte ou en Guyane, par exemple. Donc, c'est à l'intérieur même de cette situation. Donc, moi, je pars de ces faits aussi. Je ne pars pas non plus de simplement de position absente. Je parle de ces faits et donc j'interroge à partir de ces faits la possibilité, je veux dire, si on ne part pas de ces faits, on continue à les mettre de côté. Alors qu'une femme blanche soit aussi exploitée, sans doute. Mais si vous voulez, structurellement quand même, la France continue, l'État français continue à reposer sur une exploitation foncière de pays qui ont été ou ses colonies avant ou qui sont toujours ses colonies ou post-colonies.
Oui, alors il faut là, il faut effectivement qu'on arrive à ce terme d'intersection, parce que qu'il y ait des inégalités de domination à la fois de genre, de classe, de race qui se croisent, qu'est-ce que ça engendre pour le combat? C'est-à-dire que vous écrivez quand même dans votre livre, dans votre dernier livre, que tant que les luttes contre les violences sexuelles reposent sur les catégories femmes et hommes, elles ne peuvent être des luttes de libération. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, on se dit que c'est a priori ça, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, non?
Mais Martine Sorti l'a rappelé, ce sont des questions qui sont posées aussi dans les années 60-70, quand il y a eu les questions sur comment punir le viol et comment punir les violences. On savait bien que, de toute façon, à l'intérieur de ça, si des hommes noirs et arabes pouvaient être qu'ils aient commis ou pas la violence, il y avait quelque chose qui pouvait être dangereux. Et notamment, il y a eu d'énormes discussions chez les féministes italiennes, mais très violentes, des discussions très violentes sur cette question. Parce qu'on n'est pas dans un terrain neutre, on n'est pas dans un État neutre qui va de toute façon distribuer de manière égale. On sait bien qui sont les violeurs, les puissants qui sont protégés, qui sont continuent à être protégés. On sait bien que les prisons sont remplies de jeunes noirs et de jeunes arabes. On sait bien que quand même c'est eux qui sont arrêtés le plus souvent, que de toute façon s'il y en a un qui commet quelque chose, c'est dans tous les journaux que c'est manipulé. Donc moi c'est cette fausse neutralité dont je parle. Je veux dire, je ne suis pas en train de parler de principe, je parle de fait.
Ok, on va venir à la question de ce que vous appelez le féminisme carcéral, mais moi je voudrais du coup vous entendre, Martine Storti, peut-être sur ce point-là, c'est-à-dire que comment vous êtes assez critique de la notion d'intersectionnalité, c'est-à-dire que vous dites voilà, au fond c'est plus des luttes spécifiques, ça devient des féminismes, enfin ça devient au fond une injonction, une sommation qui va finir par séparer les combats. Moi la question concrète que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'on gagne? Et qu'est-ce qu'on perd à... parce qu'évidemment, dans l'idée, on aimerait bien pouvoir mener tous les combats de front. Mais vous êtes d'accord que des fois, il faut prioriser. Du coup, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on empêche à dire qu'il faut spécifier les luttes?
Alors, intersectionnel, moi, ça me convient tout à fait. C'est-à-dire, en effet, considérer qu'il y a l'accroisement, l'accumulation, l'intersection de plusieurs oppressions, de plusieurs inégalités, de plusieurs discriminations, bien sûr. Mais sans vouloir revenir toujours aux années 70, on était intersectionnel sans le dire, enfin, sans que ce mot intersectionnalité existe, si vous voulez. La coordination des femmes noires, créée par Awatiam, était complètement intersectionnelle, où elle articulait en effet différentes formes d'oppression. Et une partie des filles du LF, pas toutes bien sûr, étaient tout à fait solidaires et même travaillaient avec la coordination des femmes noires. En tout cas, ça a été mon cas et ça a été le cas de beaucoup. Donc on n'est pas du tout passé à côté de la coordination des femmes noires. Là où je tique, pour le dire comme ça, si vous voulez, c'est que je ne peux pas m'empêcher de constater que non seulement idéologiquement, mais dans les faits, l'intersectionnalité... Et c'est ce que j'appelle du concept au slogan, est aussi un outil de sommation ou de disqualification. Si vous ne vous dites pas intersectionnel du matin au soir, ou si vous avez une petite réserve sur telle ou telle façon de mettre en œuvre l'intersectionnalité, vous pouvez, je ne dis pas forcément tout le temps, être qualifié de blanche, et donc si vous êtes blanche, c'est que vous êtes raciste, c'est que vous minorisez l'oppression des racisés, etc. Si vous voulez. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans MeToo, c'est que précisément, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire parce que ça a traversé. Il y a une extension géographique, c'est différents pays, beaucoup de pays, énormément de pays, presque tous les pays du monde ont été concernés. Et l'extension aussi est sociale, c'est-à-dire ça a traversé tous les milieux sociaux. Et cette dénonciation du harcèlement, des violences, de la domination masculine sur le sexe des femmes a dépassé toutes les cultures, toutes les religions. Ça a été aussi bien les prêtres catholiques qui violaient les religieuses que des juifs, que des musulmans, que des sans-religions. Ça a traversé tous les milieux sociaux. C'est parti du cinéma aux États-Unis, mais ça concerne toutes les femmes parce que c'est ce que j'appelle ce temps commun. Vous savez, il y a des luttes sur un certain nombre de thèmes qui dépassent les professionnels du féminisme ou les militantes. Ça a été le cas de l'avortement. Pourquoi l'avortement, finalement, il y a eu ces luttes et des victoires partielles, parce que c'est pas encore malheureusement pour tout le monde ni dans le monde entier. Parce que toutes les femmes, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, ont peur d'un enfant non désiré, de tomber enceinte, si vous voulez. Et le viol, c'est pareil. Je crois que toutes les femmes, hélas, quelle que soit leur position, et même quel que soit leur âge, ont cette peur de l'agression sexuelle. Alors ça ne veut pas dire, je ne dis pas et je n'écris pas, que ça se vit de la même manière pour tout le monde. Bien sûr qu'il y en a qui ont plus de risques, entre guillemets, d'être violées que d'autres. Bien sûr que l'avortement pour les bourgeoises qui pouvaient aller se payer de voyages en Suisse ou en Angleterre était plus... Le fait que l'avortement soit interdit, c'était moins pénible pour elles que pour celles qui prenaient la queue de persil et la faiseuse d'ange. Donc bien sûr que l'intervention de classe ou de race intervient. Mais il y a quand même un en commun là que moi j'essaie de prendre en compte pour avancer ensemble, en quelque sorte. Je crois qu'on peut avancer ensemble. Voilà mon...
Qu'est-ce que vous répondez, Françoise Vergès, c'est pas exactement comme ça que c'est dit dans le livre de Martine Storti, mais à ceux qui disent, au fond, le féminisme décolonial secondarise la lutte des femmes pour la lutte antiraciste.
On est habitué quand même à ces accusations, à ces traités de menteuses ou de choses comme ça. Je répète, j'ai ma mère est féministe, elle est dans l'Union des femmes de La Réunion, mais je vois de mes yeux, je n'apprends pas ça à l'école, je le vois, que ce sont les femmes noires, les femmes lavandières, domestiques, qui sont les plus exploitées, qui sont les plus méprisées. Que le poids de l'esclavage est toujours là. Et la question, donc, pour moi, par exemple, même dans la coordination des femmes noires, on sait qu'en 78, elle éclate justement sur ces questions, parce qu'une partie de la coordination veut insister sur l'anticolonialisme et l'antiracisme et se sépare d'Awatiam qui va ailleurs. L'intersectionnalité, sur la question de l'intersectionnalité, je pense que, si vous voulez, quand je vois des jeunes femmes s'en emparer, je trouve que c'est bien parce que ça les rend attentives à des tas de choses. Je ne suis pas pour la fétichisation du terme. Je sais qu'en 80, ce sont des choses qui sont dites dès les années 30 par des noires américaines, Angela Davis dans son livre en 83. Mais c'est pas si vous voulez, ce que je trouve bien quand je les entends chez ces jeunes femmes, c'est que ça les a rendues attentives justement à plusieurs choses en même temps. Et que, bon, que la plupart d'entre elles ne prioritisent pas les luttes de celle-là sur celle-là. Elles veulent beaucoup plus d'inclusion. Et ça, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Mais je suis contre, de toute façon, moi, aucune fétichisation, que ce soit intersectionnalité ou pas intersectionnalité. Mais, et rappelons que l'intersectionnalité, c'est quand même sur le plan juridique qui est posé par Kimberlé Crenshaw, que ça peut pas s'appliquer partout et que pratiquer l'intersectionnalité est une chose très difficile. Donc, écrire dessus, en parler, on peut, mais le pratiquer. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose que des jeunes femmes essayent de faire, et je trouve ça bien. Elles font des erreurs, c'est pas grave, on en fera, c'est pas très... Je trouve que quand même, cette attention est très importante. Ça a transformé quand même. C'était là, dans des groupes du mouvement de libération des femmes, qui se prenaient aussi, qui, je veux dire, où il y a eu des dissensions très fortes et très dures. Mais là, ce désir d'inclusion, cette plus grande attention, je la trouve importante et je trouve que c'est normal que ça ait lieu. Donc, je ne suis pas du tout gênée. Je ne trouve pas qu'il y avait une priorisation si grande quand on voit vraiment dans les pratiques, quand on voit les groupes de jeunes femmes aujourd'hui, je ne les vois pas faire des priorités si fortes.
Mais pourtant, vous, à vous lire, Martine Santini, vous dites qu'il y a quand même des effets régressifs de ce que vous appelez ces prétendues radicalités.
C'est-à-dire que là, je le dis surtout à propos du livre qui était Le féminisme pour les 99% et la lutte anticapitaliste.
Donc, livre sorti alors, aux éditions de la Découverte récemment.
Oui, qu'il faille dénoncer, lutter sans cesse contre les ravages du néolibéralisme tel qu'il se met en œuvre dans tous les pays depuis les débuts, au moins depuis le début des années 80. Paradoxalement, d'ailleurs, pour un pays comme la France, c'est au moment où ce qu'on appelait la gauche au pouvoir, que l'idéologie néolibérale et la mise en œuvre et les effets économiques et sociaux de cette idéologie est venue sur la scène française. Bon, et dans d'autres pays avant. Donc les ravages du néolibéralisme, oui, les dénoncer, les ravages de ce capitalisme financiarisé, etc. D'accord, dénonçons tout ça. Mais avant qu'on ait réussi à abattre le néolibéralisme, le capitalisme, etc., donc contre lesquels sans doute il faut lutter. Moi, je dis les gens, les femmes, les hommes, n'ont qu'une vie, donc forcément, on ne peut pas attendre le grand soir. Ça a été le discours de la gauche, qu'elle soit réformiste ou qu'elle soit socialiste, qu'elle soit réformiste, qu'elle soit révolutionnaire, pendant des siècles. Hein, c'était l'émancipation, l'égalité femmes-hommes, bien sûr, mais alors après la révolution. D'abord, il faut abattre. Il faut faire la révolution, abattre le capitalisme, et puis ensuite, on passera à ça. Or, quelle est la rupture, à mon avis, qui s'est passée dans les années, avec le MLF dans les années 70, justement, c'est au discours, l'émancipation des femmes après la révolution et par la révolution, le discours, pas de révolution sans émancipation des femmes, c'est-à-dire sans précisément le triomphe de l'égalité, la liberté, l'abolition du patriarcat, etc. Donc on a inversé le propos. Et en effet, je crains un petit peu que, au nom des luttes autres, qui sont tout à fait importantes, je n'en disconviens pas, on revienne un petit peu au front, à la lutte des femmes comme front secondaire. Et une bonne intersectionnalité serait en effet de pouvoir véritablement mener les trois ou les quatre ou les cinq, enfin les croisements de front. Mais c'est assez difficile. Et comme c'est difficile, ce que je constate, c'est en effet le risque du front secondaire. Et on ne peut pas attendre le grand soir. Oui. On ne peut pas attendre le grand soir.
Si vous voulez, moi je m'intéresse à comment le néolibéralisme et le patriarcat marchent ensemble. Comment on peut voir, en fait, des pays qui ont adopté une politique néolibérale et qui ont à leur tête des hommes totalement réactionnaires, enfin des patriarches, mais que ça s'arrange quand même. Donc je ne sépare pas. Je vois comment le patriarcat est peut-être complètement pris là-dedans. Qu'on peut avoir des régimes totalement dictatoriaux, totalitaires, et des régimes dits démocratiques, et que tout ça, il y a des patriarches absolument effrayants à leur tête, et que tout ça, ça s'arrange. Et que le néolibéralisme peut aussi s'éloigner d'un patriarcat trop vulgaire pour montrer aussi qu'il peut être modernisateur. Donc c'est des choses très dynamiques et qu'on ne peut pas juste séparer pour moi. Donc il y a eu toujours un État patriarcal et que le capitalisme, il a été rapidement patriarcal et racial. Donc la manière dont tout ça s'enchevêtre, c'est ce qui m'intéresse, et c'est vrai que c'est pas tout le temps fait linéaire, tout le temps de la même manière, mais je ne sépare pas. Donc je ne peux pas voir, si vous voulez, qu'effectivement il n'y a pas de question de grand soir de toute façon, parce que la lutte, elle est longue, elle est difficile, elle avance, elle recule, mais que le fait que beaucoup de jeunes, par exemple quand on voit les jeunes femmes au Chili ou en Argentine qui se lançaient contre la police, ou au Mexique, et qui avait aussi ce chant sur celui d'Elastésis en Chili, un violeur sur ton chemin. Elles disent
la fameuse vidéo qui a beaucoup circulé au moment de la révolte.
Donc l'État, la police, le juge, tout ça, donc elles montrent les choses. C'est des femmes qui luttent à la fois pour les droits des peuples indigènes de la terre. Enfin, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est la capacité de voir que le néolibéralisme est responsable aussi parfois de renforcement, que le néolibéralisme peut tout à fait s'accorder de gouvernements qui vont interdire l'avortement. Ou le faciliter, et que c'est comment ça marche ces deux choses-là, parce que finalement, justement, ce n'est plus aussi clair. Ce n'est pas d'un côté, on a les horribles patriarches qui appartiendraient à un monde arriéré ou je ne sais pas quoi, et puis ça, c'est qu'en fait, finalement, ces gens peuvent s'entendre.
Oui, c'est-à-dire que vous critiquez dans le livre, par exemple, le « En même temps » de Macron, qui va prôner une libération des femmes, évidemment, les droits des femmes, mais en même temps, mener une politique économique qui va précariser les plus fragiles d'entre elles.
Voilà. Donc ces choses-là peuvent s'arranger, où on voit par exemple, si on prend les États-Unis, puisque c'est un qu'on connaît bien, un homme absolument d'une vulgarité sans fin, totalement misogyne, sexiste et raciste à sa tête, mais qui finalement peut s'arranger avec Wall Street, etc. Donc c'est ces arrangements-là aussi qui m'intéressent. Donc je ne sépare pas nécessairement les deux choses.
Les États-Unis sont un bon exemple, parce qu'on a à la fois, en effet, un néolibéralisme économique et un suprémacisme blanc et un anti-avortement.
Oui, là, c'est cohérent.
Patriarcat extrêmement. Mais vous pouvez aussi avoir le contraire. C'est-à-dire qu'on peut avoir... Parce que L'idéologie néolibérale, elle s'articule aussi avec quelque chose qu'on entend très souvent. Il y a une vision néolibérale de la liberté qui s'est mise en place aussi. L'idée de « c'est mon choix, je fais ce que je veux, c'est ce que je choisis », c'est une conception tout à fait néolibérale de la liberté. Peut-être que la liberté, c'est un petit peu autre chose, mais bon...
Mais alors reprenons un exemple concret qui est le sujet de votre dernier livre, Françoise Vergès, parce qu'effectivement, on voit bien que voilà, il s'agit toujours d'articuler, c'est le terme qu'on emploie tout le temps, des combats, mais sans en abandonner, sans que ce soit simplement irénique, parce qu'évidemment,
non,
on aimerait pouvoir mener tous les combats en même temps. Vous, dans ce dernier livre, Françoise Vergès, vous dites que vous voulez prendre le contre-pied de ce que vous appelez le féminisme carcéral et punitif, donc hein, c'est une autre des divisions dans le féminisme. Est-ce que ça signifie, parce que on sait que effectivement, par exemple, la justice va pas condamner de la même manière des pauvres et des riches, des noirs et des blancs, est-ce que ça signifie que les féministes doivent se passer du recours à l'État et à ses institutions au motif que ces institutions sont encore traversées par des formes de racisme systémique?
Ça pose la question. Moi, je veux dire, c'est posé. Bon, c'est une vieille question pour moi. Mais alors, il y a 3 ans, j'étais professeure invitée aux États-Unis sur un campus très libéral où il y avait une incroyable mesure de protection pour les jeunes femmes ou les femmes. Mais c'était vraiment, on ne pouvait que se sentir. Il y avait la police sur le campus tout le temps. Madame, vous n'avez pas besoin, etc. C'était incroyable. Et puis, des tas de mesures prises. À la frontière du campus, vous aviez le monde le plus brutal et le plus cruel, absolument sans protection. Donc ça m'a posé la question de ce que c'est que la protection et qui est protégé, qui n'est pas protégé. Comment, on parle de protection, mais il y a des tas de gens qui ne sont pas protégés. Et on l'a encore vu avec la pandémie, il y a des tas de gens qui n'ont pas accès aux soins. Donc comment le terme de protection par l'État a été... adopté, comment dire, totalement approprié par l'État. La protection, c'est l'État qui mène la politique de protection et du coup va imposer ses normes. On le sait pour les femmes, c'est l'État, si vous voulez être protégé, vous allez vous conduire comme ci et comme ça. C'est les conditions par lesquelles vous serez protégé, c'est effectivement si vous obéissez à ces normes. Donc c'est ces questions-là qui se posent à moi. Alors, la prison, d'envoyer, bon, que ce soit recours à la police, que des femmes puissent aller se plaindre. Et reçoivent déjà une écoute attentive dont on sait qu'elles ne l'ont pas le plus souvent. Soit. Et que, mais on sait bien, si vous voulez, quand on lit par exemple même des ouvrages de Gwenola Ricordo, qui sont assez importants là-dessus, parce que c'est une sociologue qui s'est beaucoup intéressée, c'est que finalement, beaucoup de femmes ne sont pas satisfaites de ce qui se passe ensuite, ne sont pas satisfaites de la manière dont la chose est dont la question est résolue par le tribunal et la police. Donc on voit bien que quelque chose reste. Et qu'il le faut, si on est féministe, s'intéresser à ça. Quel est ce manque de satisfaction dans la punition, dans le fait que beaucoup de femmes disent « mais on ne voulait pas finalement les envoyer en prison, on s'est pas senti mieux que ça, on n'a pas, notre vie ne s'est pas mieux passée ». Et le fait que ce soit l'État qui soit saisi entièrement de ça et qu'il ne le résolve que par la question de la prison, qui n'est pas donc ce qu'on appelle la justice réparatrice ou la justice restaurative, ou même la discussion qu'il y a aujourd'hui au Brésil ou aux États-Unis de l'abolition des prisons, c'est ce débat-là que je voudrais qu'il y ait lieu quand même en France, et que ce ne soit pas comme une évidence, et que si justement vous posez la question, on va vous dire « mais alors dans ce cas, vous êtes pour que les femmes soient violées et que les hommes ne soient pas punis ». Je trouve que c'est quand même très réducteur. Il y a absolument, et je peux dire, parce que j'ai été quand même moi-même, comme toutes les femmes, et encore aujourd'hui, de faire attention quand je rentre à 3 heures du matin, que je connais tout.
Oui, vous décrivez la manière de tenir une clé, dans votre livre, c'est voilà. Assez précis sur les méthodes d'autodéfense.
Voilà, toutes ces stratégies,
Mais poussons...
Ça, c'est en effet, toutes les femmes sont confrontées à ça. Sont confrontées à cette peur, sont confrontées à la manière de s'y prendre, sortir, pas sortir, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Que faire? Comme posait quelqu'un il y a très longtemps. Parce que, encore une fois, cette difficulté, c'est une énorme difficulté. Elle est coextensible aux luttes féministes dans tous les pays, en particulier sur cette question des violences. Pas que sur la question des violences, mais sur cette question des violences. Encore une fois, dans les années 70, il y avait cette double accusation. Vous faites appel à la justice bourgeoise. Mais sans demander des comptes aux féministes quand elles faisaient appel à la justice, elle était bourgeoise. quand c'était un patron qui était conduit devant les assises parce qu'on le considérait responsable de la mort des ouvriers, c'était plus la justice bourgeoise, c'était la justice.
Mais c'était plus rare.
Par cœur, parce que j'étais à Libé, le débat à l'époque était extrêmement violent, vif et même violent. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a un moment où il faut pouvoir sortir de l'invisibilité, du fait que cette question n'est pas prise en charge, et il y a des problèmes tactiques qui se posent. Ou, si on attend encore une fois que l'État soit autrement, que les prisons soient autrement, que la justice soit autrement, en attendant, les femmes, qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? Comment on s'y prend ? Et il arrive que, en effet, tactiquement, il soit nécessaire de choisir. Moi, ça m'a jamais amusé d'envoyer quelqu'un en prison, mais on va pas non plus laisser les femmes sans. Alors la protection dont parle Françoise Vergès, avec des caméras qui surveilleraient tous les campus, etc., c'est autre chose que de dire. Il faut que les violences contre les femmes cessent. Et malheureusement, vous voyez, moi j'appartiens à cette génération, j'ai cru que avec ce qu'on avait fait les années 70, que sur cette question des violences, on avait marqué des points. Je reconnais que je me suis trompée. Quand j'entends les jeunes femmes qui pourraient être les filles, raconter où on en est, en effet, du côté de l'accueil de la police, du côté de comment ça se passe dans les tribunaux, là, le fait que ça soit pas reconnu comme crime, etc., le fait qu'il n'y ait pas assez de places d'hébergement et tout ce que vous voulez, je me dis, malheureusement, le combat contre les violences est un combat sans fin. Et c'est triste, mais c'est un constat.
Mais parce que, juste François Vergès, dans ce que vous dites ou ce que vous laissez entendre dans le livre, c'est pas simplement autodéfense versus recours aux institutions, enfin c'est autodéfense personnelle et autodéfense et ou autodéfense communautaire. Mm-hmm. Parce que la question qui se pose derrière ce que vous dites, c'est qu'est-ce qu'on fait des violences sexistes et sexuelles quand elles viennent de raciser, de dominer ? Mm-hmm. Est-ce qu'il faut ne pas les traduire dans la justice ? C'est ça que
oui.
vous dites ?
Non, mais moi je veux bien qu'on caricature et qu'on simplifie ce que je dis. Quand je disais que je parlais pas simplement des caméras sur le camp, en plus, je parlais de la division entre un espace qui va être protégé et un espace qui ne va pas l'être. Donc, ça déjà, il faut quand même s'en rendre compte. Et en France, c'est partout comme ça. Il y a des villes, il y a des endroits qui sont protégés et des endroits qui ne sont pas.
Oui, bien sûr, mais du coup, vous entendez, on a l'impression que puisqu'il y a des espaces qui restent non protégés, il faudrait que les espaces pour les femmes ne le soient pas.
Mais non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a, dans la conception même de la protection, il y a une division de classe et de race, et de genre, et sur les travailleurs sexuels et sur les trans. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire, c'est entendu, mais... enfin, je veux dire, il faut quand même pas... Je veux bien qu'on caricature ce que je dis depuis tout à l'heure, mais enfin, on va quand même un peu ne pas me prendre pour quand même quelqu'un qui serait pour qu'on ne... On laisse les femmes être violées ou harcelées.
Non, mais pas du tout. Mais
donc, je voudrais quand même qu'on mette ça sur la table et puis voilà, on arrête avec ça. Ce que je dis, c'est que quand aux États-Unis, des femmes posent la question, ou au Brésil posent la question de l'abolition des prisons, je veux prendre cette question sérieusement. Je veux la prendre sérieusement. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut attendre le grand soir, je dis qu'il faut prendre cette question sérieusement. Que ce n'est pas simplement de nous répondre, dans ce cas, vous laissez la violence se faire. Ensuite, ce que je dis, c'est que, par exemple, sur la question des violences, il faut aussi s'intéresser, dans ce cas, aux violences au pluriel contre tous les corps. Et je cite, comme vous l'avez vu, puisque vous avez lu mon livre, je cite la systématisation des violences qui sont faites aujourd'hui aux hommes, à des hommes, dans certains pays. Et que cette division entre hommes bourreaux et femmes victimes est peut-être à questionner. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne me fasse pas dire que je n'ai pas dit que les femmes n'étaient pas les plus torturées, mutilées, assassinées, violées tous les jours. Je pose des questions qui sont des questions aussi qui partent de faits. Je ne sais pas simplement de principes. Et je trouve qu'il faut qu'on s'entende là-dessus parce que sinon, effectivement, on va aller inévitablement aux solutions étatiques et aux solutions de répression. Même la loi sur le harcèlement sexuel qui a lieu en ce moment, enfin qui a été prise en ce moment, pose des questions. La manière de répondre aux violences sexuelles et sexuelles pose des questions, puisqu'on sait que des femmes, de toute façon, on dit qu'il manque des refuges, mais aussi qu'elles ne trouvent pas de travail, que de toute façon, elles ont une perte de revenus, que la moitié des femmes, de toute façon, sinon les deux tiers des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Enfin, ce sont des questions tout à fait concrètes. Je ne suis pas en train de parler de choses
je vous pose,
complètement abstraites.
Parce que là, on arrive à la fin du débat, donc je vous pose à toutes les deux une même dernière question, parce qu'en fait, vous parlez toutes les deux.
Juste une remarque quand même, parce que Là, le discours, enfin, pardon de le dire comme ça, s'adresse pas à moi. Je veux dire, y a, lutter contre les violences dont les femmes sont victimes n'est pas synonyme de négation de violences dont des hommes, dans d'autres circonstances, peuvent être victimes.
C'est pour ça que je vous pose une question à partir de totalitaire de choses, alors que vos livres sont quand même souvent très opposés. Vous parlez toutes les deux de la coordination des femmes noires des années 70 comme d'un exemple d'un mouvement qui a réussi à lutter en même temps contre, je dis en même temps, on n'a plus le droit de dire ce terme, mais bon, contre les violences sexistes et contre les violences racistes. Est-ce que aujourd'hui vous voyez cette capacité de lutter contre ces deux types de violences dans le même mouvement politique existe encore? Ce sera ma dernière question.
Moi, je le vois tous les jours. Je le vois dans des tas de groupes. Je le vois absolument dans les débats qui ont lieu auxquels j'assiste ou auxquels j'anime. Je le vois tous les jours. Cet effort absolu de mettre effectivement, de poser ensemble, de se dire que, alors là, je citerai Angela Davis, qu'il n'y a pas de lutte anticapitaliste sans lutte antiraciste et antisexiste, et vice versa. Donc pour moi, c'est absolument au creux. C'est pas une question d'intersection de là où je sais pas quoi. C'est un effort quotidien. C'est pas donné, c'est pas compréhensible, c'est pas visible comme ça. Justement, c'est pas voilà l'ennemi, voilà. C'est ce travail constant avec le constant assaut qu'opère l'État, ou dans ce pays déjà, et puis partout, le néolibéralisme, le racisme, sexisme. Et qu'effectivement, c'est tous les jours un effort pour tenir tout cela ensemble et avancer. Donc c'est pas du tout, moi je suis pas du tout dans des programmation sur les années à venir. Et je suis absolument pour que la lutte antiraciste en France ne soit pas prise comme une lutte à côté, marginale, mais qu'elle soit au cœur, parce que la lutte antiraciste, elle est un antisexiste.
Moi, je vois les deux. C'est-à-dire que je vois en effet des combats où l'articulation peut tout à fait se faire et c'est tant mieux, mais je vois aussi des injonctions à hiérarchiser les luttes. Quand certaines disent si tu luttes contre le voile, c'est que tu trahis ton origine, ton identité, ta religion, ou bien si tu dénonces un violeur racisé, tu fais le jeu du racisme, ça aussi je le vois. C'est-à-dire que je vois les deux. De même que je vois en effet l'instrumentalisation du féminisme par des fémo-nationalistes et une instrumentalisation aussi du camp opposé. C'est pour ça que j'essaie de tracer un chemin sur une ligne de crête.
Ok, pour continuer sur la ligne de crête parfois ascendante, à lire donc Pour un féminisme universel, c'est publié aux éditions du Seuil. Un féminisme décolonial, c'est à la Fabrique, et on montrera la couverture d'une théorie féministe de la violence qui sort juste en ce moment. Merci beaucoup à toutes les deux d'être passées par nos studios du passage Brelon.